Nous sommes tous responsables de construire un avenir meilleur.
Nous sommes tous des acteurs de paix.
Radio La Bénévolencia et Radio Capi présentent la nouvelle émission Jeunes Leaders.
L'émission des jeunes d'aujourd'hui et des leaders de demain.
Rendez-vous sur Radio Capi tous les samedis à 11h30 heure de Kinshasa pour débattre de l'actualité qui nous concerne.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi, service de ce jour. On y va avec le premier sujet sur les conséquences des perturbations des saisons sur la production agricole. En RDC, plusieurs coins connaissent des perturbations des saisons. Ces phénomènes ont des conséquences sur la production agricole des paysans et des maraîchers. D'après les experts, lorsqu'il ne pleut pas suffisamment, la production ne sera pas abondante. Et lorsqu'il y a beaucoup de pluie, certains produits ne supportent pas cela. Alors qu'il doit faire le maraîcher, les paysans, lorsqu'il y a perturbation des saisons, je dis en sommaire de cette émission, Jean de Dieu Minengou, expert en environnement et notre invité, nous rappelons le numéro d'appel si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez au 081 890 63 94. Alors Jean de Dieu Minengou, d'entrée de jeu, vous pouvez d'abord nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on attend par perturbation des saisons.
Bon, les perturbations de saison, c'est ça qu'on peut appeler les perturbations de tout ce qui est comme un calendrier agricole, parce que généralement en République démocratique du Congo, l'agriculture dépend entièrement des précipitations naturelles. Et il y a très longtemps ici, Marcel, les gens préparaient les champs au mois de juillet et août, vers les 15 août ou début septembre, c'était déjà les retours de pluie. Donc aujourd'hui, on constate que les pluies ne reviennent pas généralement et entre le 15 mai et le début du mois de septembre, mais les pluies sont renvoyées vers le mois d'octobre ou carrément vers le début de novembre. Donc ça, c'est en train de ce qu'on appelle les perturbations de saison en ce qui concerne les activités agricoles, donc la perturbation du calendrier agricole. Donc ces perturbations sont dues à ce que nous appelons les changements climatiques dont parle toute l'humanité. Donc voilà de façon brève et jolie, et Marcel, ce que je peux dire en rapport avec la question que vous venez de me poser.
Voilà, justement, ça sera d'ailleurs ça l'objet, l'intérêt de ce sujet pour parler de ces perturbations par rapport à ces maraîchers, à ces paysans qui étaient habitués à des saisons particulières pour faire leur culture. Alors, face à toutes ces perturbations, vous avez dit par exemple pour ce qui est des périodes de pluie, donc c'est plus comme c'était avant. Alors, comment le paysan peut s'adapter à toutes ces perturbations pour faire en sorte que la production agricole n'en soit pas totalement affectée?
Oui, merci beaucoup Marcel. Donc, comme je l'ai dit, les perturbations climatiques que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec la précipitation, l'augmentation de la température, c'est le résultat de toutes les activités que nous sommes en train de réaliser ici sur la Terre. Vous avez chez nous, en République démocratique du Congo, nous pratiquons généralement ce qu'on appelle l'agriculture itinérante survolée, et cette activité renvoie à des quantités importantes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, en même temps que l'agriculture contribue au réchauffement climatique, et en même temps, cette même agriculture est en train de souffrir des impacts négatifs de tout ce qu'il y a comme perturbation au niveau climatique. Alors, la question fondamentale que vous êtes en train de poser, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les agriculteurs s'adaptent aux impacts finalement du changement climatique? Donc, les efforts au niveau national ne doivent pas se limiter au niveau de l'adaptation de notre agriculture par rapport aux impacts du changement climatique, mais également les efforts que nous devons fournir pour que nous puissions participer à tout ce que les gens font ailleurs pour lutter contre le changement climatique. Parce que dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on dit, on parle de la responsabilité commune mais différenciée. Donc nous sommes tous responsables du dérèglement du climat, mais à des degrés différents. Donc personne ne peut dire qu'il ne va pas contribuer aux efforts de la communauté internationale pour réguler la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ce qu'il faut faire concrètement pour que nos agriculteurs s'adaptent aux impacts du changement climatique et participent aux efforts de la communauté internationale dans le cadre du changement climatique, je pense, à mon avis, il y a trois éléments importants à prendre en compte. Le premier élément, c'est au niveau réglementaire. Comme je l'ai dit, ici, les activités chez nous en République démocratique du Congo qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout l'agriculture et la foresterie. Donc notre agriculture qui renvoie des quantités importantes de CO2 dans l'atmosphère devrait être en principe régulé, devrait être en principe réorienté vers d'autres pratiques beaucoup plus importantes. Et c'est qu'ici, je salue les efforts qui ont été fournis en matière de la mise en place de ce qu'on appelle la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, qui date depuis 2011, mais il est fort malheureusement que cette loi qui a apporté des innovations importantes dans ce domaine n'a jamais connu un seul début d'application. Donc il est difficile aujourd'hui de parler de l'adaptation des agriculteurs aux impacts du changement climatique. Il est aujourd'hui très difficile de parler de la participation de nos paysans, des communautés locales à la lutte contre le changement climatique. Tant que la loi qui réglemente l'agriculture, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, reste encore en veille. La loi n'a jamais été encore appliquée de façon totale. Alors, au niveau toujours réglementaire, il y a par exemple ce qu'on a appelé le code forestier. Parce que, Marcel, il faut savoir que la forêt joue un rôle important pour réguler les climats. Mais lorsqu'on assiste à une gestion chaotique, à une gestion tout à fait catastrophique des ressources forestières de la République démocratique du Congo, il est extrêmement dérisoire de croire que dans ces conditions, on peut s'adapter aux impacts du changement climatique et on peut finalement lutter contre le changement. Donc il faut que le code forestier, qui date de 2002, soit vraiment en application de façon totale et intégrale. Et ça, vous le connaissez bien, que vraiment l'application des lois pose suffisamment de problèmes à la République démocratique du Congo. Mais tant que nous ne fournirons pas suffisamment d'efforts pour que de telles lois qui réglementent les systèmes de production, qui réglementent notre environnement, ne sont pas appliquées, et il est totalement difficile pour nous de nous engager dans une voie du développement véritable. Il
y a d'autres Jean de Dieu, c'est vrai, vous évoquez déjà des solutions au niveau des décideurs, mais au niveau de paysans dans leur vie au quotidien, prenons par exemple les cas de maraîchers, maraîchères qui sont du côté de Kinshasa, du côté du Sekomaf, qui plantent des produits maraîchers. Qu'est-ce que sur le terrain elles peuvent faire en attendant qu'il y ait tout ce dont vous évoquez, qu'il y ait des lois, qu'il y ait une réglementation par rapport à toutes ces activités pour faire face à ces perturbations liées au changement climatique? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Des gens, par exemple, qui cultivent le manioc, qui cultivent le maïs, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire?
Oui, merci. Marcel, je devrais arriver, je voudrais circonscrire le cadre dans lequel, parce que finalement, si je commence à dire, bon, voilà, ce qu'il faut faire face aux impacts du changement climatique, voilà, il faut chercher des variétés résilientes, il faut faire l'agroforesterie, il faut faire ceci, ça, c'est ce que nous appelons des solutions techniques qui n'apporteront jamais des solutions durables. Oui. Or, la gestion de la société n'est pas une question de circonstances, c'est une question dans la durée. Alors, lorsque, finalement, c'est ça qui se dessine, finalement, en République démocratique du Congo. Lorsqu'on se trouve devant des problèmes, on passe directement par des raccourcis, au lieu de chercher des solutions tout à fait durables pour que dans le temps, les gens continuent à travailler normalement et pour que les effets, par exemple, du changement climatique ne pèsent pas beaucoup sur l'économie nationale et ne puissent pas faire souffrir beaucoup les communautés locales. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord commencer par ça. Ça, c'est la fondation de tout. Hein, parce qu'aujourd'hui, tant que la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, les codes forestiers, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement, la loi sur la conservation de la nature, ces lois ne sont pas appliquées et JR, toutes les solutions techniques que nous allons proposer sur les terrains ne produiront aucun effet. Donc je voudrais dire que la fondation de tout ce que nous pouvons faire pour que les agriculteurs s'adaptent aux impacts du changement climatique et participent aux efforts de la communauté internationale de lutter contre les dérèglements du climat, nous devons nous habituer à faire appliquer les lois que nous avions nous-mêmes votées, que nous avons nous-mêmes promulguées. Et ça, c'est très important pour une société qui veut aller devant, qui veut devenir une société moderne. Voilà. Alors, pratiquement, parce que c'est ça que vous voulez, qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire? C'est ça que vous voulez. Et moi, j'appelle ça des solutions éphémères et qui ne vont pas dans la durée. Alors, de façon éphémère, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Aujourd'hui, on voit que les précipitations deviennent très, très aléatoires. On ne connaît pas exactement les retours de pluie. Il y a des cultures qui sont très, très vulnérables aux impacts du changement climatique. Vous êtes dans la région de Kinshasa, vous avez la culture comme le maïs. Et c'est une culture très compliquée à réaliser dans les conditions actuelles. Donc, il faut aller beaucoup plus vers ce qu'on appelle les légumineuses. Vous avez les cultures comme l'arachide, les soja, ça peut s'adapter dans ce genre de conditions. Mais le maïs devient une culture très compliquée. À la place du maïs, nous sommes en train de demander des agriculteurs d'aller vers d'autres céréales telles que les sorgho, telles que les mil, qui s'adaptent dans ce genre de conditions. C'est vrai que c'était des cultures qui étaient réalisées il y a très longtemps dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes obligés, au regard des impacts du changement climatique, au regard des perturbations climatiques que nous sommes en train de vivre, d'adopter ces cultures dans nos systèmes de production, et si nous voulons répondre à la question de la sécurité alimentaire, et si nous voulons permettre aux communautés locales de vivre dignement de leurs propres activités. Il faut faire des recherches au niveau, oui, des centres, au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, sur les variétés résilientes au changement climatique, les variétés qui peuvent s'adapter à ce genre de perturbations. Et là aussi, il faut trouver des moyens exactement pour faire de la recherche par rapport à ça. Il faut développer au niveau de ce qu'on peut appeler l'agriculture vivrière, développer les pratiques de l'agroforesterie et l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique et bien d'autres pratiques qu'il faut mettre en place, qu'il faut absolument vulgariser auprès des communautés locales pour que ces dernières essayent...
Donc, voilà, si on comprend bien, vous avez évoqué des solutions durables, hein, c'est-à-dire il faut réglementer les secteurs, et vous avez également parlé des solutions pratiques que vous venez de citer, par exemple, une agriculture de conservation, chercher des variétés qu'il faut, hein, qui peuvent s'adapter. Voilà, nous avons déjà des auditeurs en ligne Kapala, qui nous appellent de Mobile, Clément Daye, qui est à Kananga. Nous rappelons à ceux qui viennent de se joindre à nous, vous êtes sur la fréquence de la paix, nous sommes en train... le magazine Okapi Service. Nous sommes en train de parler des conséquences des perturbations des saisons sur la production agricole avec notre invité Jean de Dieu Minengo, qui est expert en environnement. Si vous êtes intéressé par les sujets, le numéro d'appel 081 890 et 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Kapala nous appelle de Moba. Bonjour Kapala.
Bonjour Monsieur Marcel Mondombala, bonjour à l'invité et bonjour aussi à l'Okapi Service. Oui, d'emblée, je dirais Monsieur Marcel... Vous rendez vraiment service à la nation congolaise. Bien. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur l'invité, que quand il pleut abondamment, vous constaterez qu'il y a des répercussions sur les rendements. Vice versa, quand il ne pleut plus, vous n'avez pas non plus de bons rendements. C'est à partir de là que je voulais que l'invité m'explique ce phénomène-là. Pourquoi? Allô?
Oui, on vous écoute, Kapala.
Oui. Qui doit fournir beaucoup d'efforts à ce que la loi sur les codes forestiers soit bien appliquée ici en République démocratique du Congo, M. Marcel? Voici la question, mes deux préoccupations que j'avais à poser à l'invité.
Merci, Kapala, depuis Moba. Clément Daï, vous êtes à Kananga. Bonjour, Clément.
Bonjour, s'il vous plaît, je ne sais pas qui est au micro, j'ai une confusion.
Clément, allez-y, quelle est votre question? C'est Marcel au micro. Allez, d'accord, quelle est votre question?
D'accord, merci. Il est vrai que selon l'introduction de l'invité, il a évoqué plusieurs méthodes et plusieurs techniques qui peuvent normalement nous aider à réussir les cultures. Mais voilà, des fois, il y a les agriculteurs, parfois les maraîchers, qui profitent des précipitations pour vraiment passer au semis, ou parfois passer au séchage. Et d'une part, on remarque que non, il y a un moment ou une période où il sera vraiment, il y aura la sécheresse, et parfois on n'arrive pas à faire un bon résultat. Alors dans cette situation, quelle méthode, ou les conseils que l'invité, pas les méthodes comme telles, mais les conseils que l'invité peut nous donner pour que nous puissions vraiment réussir, puisque sinon, on remarque, j'ai vite compris, qu'au moment où au village il y avait les agronomes des territoires, des secteurs qui travaillaient convenablement, des situations pareilles, on pouvait vraiment les prévenir bien avant. On pouvait dire que non, voilà, c'est, durant cette année, il n'y aura pas trop de pluie vraiment juste au mois de septembre, mais voilà ce que vous devez faire, soit profiter de ces choses-là. Alors ces méthodes-là est beaucoup perturbée et puis totalement perdue. Pourquoi? Puisque ces agronomes ne passent pas aux vulgarisations de la façon dont ils le faisaient auparavant, quand nous étions encore, quand on vivait avec les colonisateurs. Alors je demande à l'invité quelle méthode il peut nous donner afin que nous puissions les utiliser, afin que nous ne puissions pas encore nous précipiter ou parvenir à semer en retard, pour que nous puissions faire de bons résultats. Alors la deuxième des questions, il est vrai que lui, c'est un expert. Qu'est-ce que nous devons faire pour combattre normalement la source? Puisque selon ce que je vois, est-ce que si normalement on passe au déreboisement, est-ce qu'on aura une suite favorable à ceux qui nous embêtent comme sécheresse, ou parfois il n'y a pas de plus suffisamment, ou parfois de plus suffisamment qui embêtent les cultures, et puis c'est décourageant. Alors comme tous nous sommes en train de manger, ça ne nous décourage pas, mais nous sommes en train de travailler. Le plus rien que nous trouvons ne peut pas normalement répondre à nos besoins. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut nous dire à ce que nous puissions faire les reboisements, ou il y a d'autres méthodes, des techniques que nous pouvons utiliser, que nous ne soyons pas embêtés à tout moment par des choses pareilles. S'il vous plaît, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Marcel Ngombombal.
Merci, Clément. Depuis Kananga, on revient à notre invité, Jean de Dieu Minengo. Vous avez suivi Kapala qui a appelé de Moba, qui a cherché à savoir qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de phénomène, c'est-à-dire qu'il y a de produits agricoles qui supportent la pluie. Donc, lorsqu'il pleut abondamment, ça marche bien pour ces produits, alors que pour d'autres, lorsqu'il pleut abondamment, ça pose problème. Il a cherché également à savoir, parce que vous avez parlé du code forestier, c'est-à-dire, si j'ai bien compris sa question, qui doit s'occuper de ça, qui doit jouer, et qui est au premier plan de ce code forestier, de façon à ce qu'on puisse s'adapter à ces perturbations climatiques. Vous avez également suivi Clément Day qui a parlé des méthodes actuelles là, de qu'on utilise couramment pour les cultures. Est-ce qu'il y a des changements qu'il faudra peut-être ajouter aux méthodes traditionnelles qu'on utilise pour cultiver certains produits, et si c'est possible de faire cela? Et il a également cherché à savoir, est-ce que pensez-vous que le reboisement peut également être une solution à toutes ces questions liées au changement climatique? Question de Dieu.
Merci Marcel. Je commence par répondre à la question de notre ami Clément qui a appelé de Kananga. Il dit, est-ce que le reboisement peut être la solution à la question de tout ce qui a comme perturbation climatique, surtout au niveau des précipitations? Et comme je l'ai dit au début, mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, que faire pour régler le problème de façon durable? Oui. Donc, les règlements du problème de façon durable, ça demande des efforts au niveau international. Donc, mais ces efforts au niveau international ne dit pas que la République démocratique du Congo ne doit pas fournir au niveau interne ses propres efforts. Donc, pour régler de façon durable, permettre aux agriculteurs de réaliser la production agricole dans ce contexte où le climat est en train de subir des mutations importantes et irréversibles, il est absolument important. Et la fondation de tout cela, c'est que toutes les lois qui réglementent l'agriculture, qui réglementent le sol, qui réglementent l'environnement de la République démocratique du Congo, soient appliquées. C'est ça la solution durable. Toutes les autres découlent de cette grande fondation. Tant que cette fondation n'est pas prise en compte par les décideurs politiques, cette fondation n'est pas prise en compte par la société civile, tout ce que nous allons proposer comme reboisement n'aura aucun impact sur la vie des communautés locales. Alors, pour être beaucoup plus pratique par rapport à la question qu'il venait de poser, est-ce que les reboisements peut être une solution? Oui, ça peut être une des solutions, mais les reboisements ne peuvent répondre que dans un environnement réglementé, là où il y a par exemple un plan général d'aménagement du territoire national. Marcel, nous réalisons beaucoup de projets ici. Vous pouvez faire un projet ici dans la périphérie de Kinshasa. Le lendemain, ce que vous avez construit comme forêt, ça se retrouve entre les parcelles. Ça devient des arbres que les gens doivent battre. Donc, tant qu'il n'y aura pas un plan général d'aménagement du territoire, couplé à la mauvaise application des lois, il est pratiquement impossible que toutes les solutions techniques que nous allons proposer donnent des véritables résultats attendus par les utilisateurs. Les reboisements, oui, mais à court terme. Mais dans les temps, vous allez voir que ce que vous avez planté, et ça se retrouve dans une région où on va dire non, ici, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plan général d'aménagement du territoire. Voilà, ça c'est ça que je peux dire à notre ami Clément qui a appelé...
De Kananga.
Oui, et Kananga, pour... qui a également...
Il n'y a pas également de méthode traditionnelle de semis? Est-ce que c'est des méthodes qu'il faut voir comment changer ces méthodes, ou bien c'est on peut continuer toujours à utiliser les mêmes méthodes traditionnelles pour cultiver?
Oui, bon, en fait, Marcel, comme on l'a dit, le métier appartient à ce qu'il est pratique. Il n'y a personne qui connaît l'agriculture plus que l'agriculteur lui-même. Donc, ce n'est pas le fait d'être professeur à l'université à la faculté d'agronomie que vous devez vous prétendre connaître plus l'agriculture, qu'est-ce que l'agriculture? Les pratiques qui ont donné des meilleurs résultats au niveau local, les gens doivent les conserver. C'est ça que dit même la fin. Ce ne sont pas des pratiques qui doivent être écartées. Et pour bien faire face à cet enjeu de bouleversement climatique, pour faire face à tout ce qu'il y a comme perturbation au niveau des précipitations, les agriculteurs doivent être capables de choisir les espèces végétales au niveau local qui s'adaptent à ce genre de précipitations. Donc il faut un travail finalement de ce qu'on peut appeler la sélection participative pour qu'on arrive à identifier les espèces végétales qui peuvent s'adapter et à tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui.
Voilà, Jean-Dieu, vous permettez, avant de répondre à Kapala qui nous appelait de Moba, on va d'abord accorder la parole à un auditeur qui est en ligne, c'est Serge Kaloubia, qui nous appelle de Kindu. Bonjour Serge.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombo Mbala.
On vous écoute.
D'accord, c'est Serge Kaloubia à partir de Kindu Maniema. Je félicite notre invité par rapport à ses explications un peu brillantes. Je voudrais un peu lui poser quelques deux ou trois questions. Mais là, je voudrais un peu qu'il m'explique le comportement de ma tante qui reste à 25 km de la ville de Kindu et à 25 km, elle a encore foncé à 5 km, donc c'est là où se situe un peu sa campagne. Donc si elle veut cultiver, elle se déplace encore de là pour aller suivre une forêt vierge qui peut encore se retrouver à 8 km, donc elle fonce davantage.
Pour cultiver, Serge, c'est pour cultiver à quel produit? C'est pour quelle culture?
Bon, elle cultive le maïs ou le riz.
D'accord, allez-y, oui.
D'accord. Donc, arrivée là-bas, avec ou sans perturbation de la saison, elle a toujours retrouvé des rendements. Maintenant, ici chez nous, à Kindu, et quand vous l'appelez et vous la demandez tant, pourquoi vous foncez toujours dans la forêt et que vous avez avec vous une forêt qui vous entoure? Elle me dit que non, nous on suit une forêt qui n'a pas encore été touchée parce que là, avec ou sans perturbation de la pluie ou des saisons, nous on trouve beaucoup de la nourriture. Maintenant, je voudrais un peu poser la question à notre invité. Elle nous dit de voir comment on peut évoluer avec l'activité marché.
Dommage pour Serge Kaloubia qui nous appelait de Kindu, qui n'est plus en ligne, mais la première question par rapport à sa tante qui fait la culture du maïs et du riz, ça on a bien compris. L'invité pourra répondre à cette question. Désolé pour Serge, merci tout de même de nous avoir appelé depuis Kindu. Papi Kalima, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Papi.
Bonjour Marcel Ngombala.
On vous écoute Papi.
Mais bonjour à notre invité.
Bonjour Papi.
Je voulais de prime abord, avant de commencer, donner quand même une petite remarque à notre invité. Notre invité parlait trop vite et au moment où cette émission bénéficie aux paysans et paysannes qui nous suivent. Et il parle un peu il faut qu'il parle d'un français vital. Vraiment qu'il a tenu un peu des termes dans son français parce que nos paysans, plusieurs de nos paysans et paysannes n'ont pas été au banc de l'école. Merci pour cette remarque. Ma question est de savoir laquelle de nos cultures peut-elle être adaptée à n'importe quelle saison, même s'il y avait une perturbation de saison. Mais cette culture peut-elle être cultivée, excusez la tautologie, facilement et s'adapter à cette saison? Parce qu'on peut s'attendre à une saison de pluie, mais il se peut que la saison sèche continue. Mais cette culture-là peut être faite à n'importe quelle saison et nous avons un résultat escompté, donc un résultat-là favorable. C'est la seule question que j'avais. Et aussi, sur quelle terre cette culture, en s'adaptant à cette saison, peut être cultivée? Parce que nous avons beaucoup de terre ou bien de sol sablonné, sol argileux, caillouté, bon, dans quelle catégorie de sol ou terre cette culture peut-elle être adaptée facilement à cette saison-là?
Merci
Marcel,
oui.
Et bonne journée.
Merci Papi Kalima d'avoir appelé de Kinshasa. On va rester à Kinshasa pour accorder la parole à Jean-Pierre Mandé. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question Jean-Pierre?
Oui, en tout cas, donc j'ai saisi d'abord l'initiative et puis l'émission. Et puis, bon, l'observation que le président vient de le faire, c'est vraiment très capital parce que c'est vraiment une émission très capitale et que ça devait quand même avoir une langue qui doit être accessible à tous et la population paysanne parce que c'est une émission qui cadre vraiment avec la population paysanne. je pense que le problème pour notre problème de l'environnement, je pense que nous avons des principes fondamentaux, même de la bioéthique ou même de la protection de l'environnement, où il y a le respect de la biodiversité en général, nous avons la justice et puis la bienfaisance. Maintenant, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que nous avons des codes, nous avons des lois nationales, nous avons des lois internationales, mais dans notre pays, on refuse même de vulgariser ça. Même le fait d'utiliser même de ceux qui travaillent avec les paysans, ceux qui travaillent avec les agriculteurs, on risque même qu'on puisse les appuyer seulement pour la vulgarisation des fiches des lois. Parce que l'agriculture au niveau des non-forêts, ça se fait sur brûlis, où on va voir qu'il y a une partie des forêts. Il faut couper les arbres, il faut brûler et puis on va s'aimer. Et le fait déjà de brûler, il y a déjà des ceux qui vont peut-être détruire encore de la couche ozone. Mais tout ça là, la population n'est pas informée. Maintenant, une émission très capitale comme celle-ci, on le fait à une langue que même les non-paysans, où, là où ils travaillent, il n'y a même pas une radio, il n'y a même pas l'accessibilité à la radio, qu'on saurait que le problème c'est que qu'on puisse d'abord essayer de voir des gens qui travaillent directement avec les paysans, les appuyer, pas seulement financièrement, même avec des documents qu'on doit vulgariser sur même sur les champs. Et là, peut-être, on pourra le faire avec des langues qui doivent être faciles, même les langues vernaculaires. Mais si on doit, en tout cas pour l'émission de la Radio Capi, je viens vraiment de vous encourager que c'est vraiment une émission capitale et que la destruction de l'environnement, ça ne se fait pas en ville seulement, mais c'est dans la population paysanne. C'est que nous devons peut-être aller vulgariser ça.
Merci.
Et non, oui.
Merci Jean-Pierre, on a déjà compris votre souci par rapport à la vulgarisation de toutes ces lois au niveau des paysans. Voilà, donc merci Jean-Pierre Mandé d'avoir appelé des Kinshasa. Alors Jean-Désir Minon, on revient à vous aussi rapidement. Vous pouvez déjà, on commence d'abord avec Papy Kalema qui a posé une question pratique en demandant laquelle de nos cultures peut s'adapter à toutes les saisons, c'est sur quel genre de terre.
Oui, merci. Je dis, Marcel, comme vous le savez, les gens ne réalisent pas. Dans toutes les régions de la République démocratique du Congo, les gens ne font pas toutes les mêmes cultures.
Oui.
Et les gens qui réalisent la production ont des objectifs sociaux, ont des objectifs économiques et ne sont pas des objectifs environnementaux. Alors il est difficile de dire, bon voilà, la culture qui convient pour faire face aux enjeux du changement climatique, c'est telle culture. C'est pas la même culture qui est cultivée dans le nord, le sud, Katanga, Maniema, à Beni, à Kipuko, à Idiofa. Et tout ça, ça pose finalement le problème. Mais ce qui est important par rapport à ce qu'il a posé comme question, comme je l'ai dit, donc il y a un travail important à faire au niveau national, et c'est celui de l'identification des espèces locales adaptées à tout ce qui est comme perturbation climatique en fonction des zones agroécologiques de la République démocratique du Congo. Les gens qui font le culture maraîchère, par exemple, dans la ville de Kinshasa, savent que, bon, on ne peut pas cultiver la tomate pendant toute l'année, c'est pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que pendant la saison sèche, vous avez une perte importante de flair et que la production est très moindre.
Oui.
Donc, la solanacée qui donne de bons résultats, c'est finalement l'aubergine. Ça, c'est connu. Quand vous allez, par exemple, dans le plateau de Bateke, pour les cultures vivrières,
oui,
avec tout ce qu'il y a comme perturbation climatique, les gens savent que le maïs devient une culture pratiquement aléatoire. Et les quelques cultures qui donnent de bons résultats, vous avez les niébés, vous avez les soyeux, ce sont des légumineuses qui essayent un peu de s'adapter dans ce genre de conditions. Donc, les besoins varient en fonction des zones agroécologiques,
oui,
et en fonction de ce que les gens veulent avoir comme résultat par rapport à l'activité qu'ils sont en train de réaliser.
Bon, Jean de Dieu, il avait également Serge qui a parlé de sa tante qui chaque fois essaye de chercher les terres vierges, hein, d'après lui une terre qui n'a pas encore été exploitée. Hein. En tout cas, d'après Serge qui nous a appelé, ça donne des bons résultats. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi chaque fois vous cherchez à vous changer de terre, elle dit simplement c'est pour que je puisse tout le temps voir une bonne production. C'est une bonne affirmation ça.
Oui, bon, en fait, je dis comme nous l'avions dit au début de notre émission, le système de production agricole en République démocratique du Congo est caractérisé par ce qu'on appelle l'agriculture itinérante sur brûlis.
Oui.
C'est-à-dire, lorsque vous avez réalisé le défrichement ou le déboisement cette année, vous avez incinéré pour réaliser la production agricole, vous n'êtes plus obligé de travailler sur le même sol parce que les sols s'appauvrissent très rapidement avec les précipitations importantes et les fortes insolations font en sorte que les sols perdent rapidement leur fertilité.
Oui.
Et les agriculteurs au niveau local, là où il y a encore des vastes étendues de terre, sont obligés de passer d'un espace à un autre. Mais cette situation devient très difficile dans les régions où ces genres de gymnastiques ne sont plus possibles de réaliser. Vous êtes dans la province, par exemple, du Grand Kivu, où la pression sur la terre est très, très forte. Donc, la nécessité pour les organisations de la société civile, la nécessité pour le gouvernement de vulgariser auprès de ces populations les systèmes agricoles qui permettent aux agriculteurs, qui permettent à ces gens de rester sur le même espace sans toutefois aller chercher de nouvelles terres, c'est ça qu'il faut absolument faire.
De là, vous encouragez Jean-Pierre Mandé qui a parlé de vulgariser.
Avec Jean-Pierre, oui. C'est que beaucoup de choses que nous sommes en train de dire ici sont déjà prévues par la loi. Hein,
oui.
Tout ça, c'est la loi, c'est la fondation du développement d'une nation. Comme j'ai discuté avec un ami, il dit que dans une société où les gens, Marcel, ne sont pas capables de faire appliquer les lois, ou dans une société où il n'existe pas de loi, cette société n'évolue pas vers la modernité, mais elle évolue lentement, mais sûrement vers un état archaïque. Donc nous devons fournir l'effort pour faire appliquer les lois. Parce que quand vous appliquez les lois, tout est prévu dans la loi, les stratégies qu'il faut mettre. Et là, à partir des lois, vous mettez en place des stratégies nécessaires, des projets qui vont se développer. Mais tant que tout ça, l'application des lois, c'est un tabou en République démocratique du Congo, donc nous aurons suffisamment du mal pour faire avancer. Notre ami Jean-Pierre a dit qu'il faut vulgariser. Il faut vulgariser. Il y a beaucoup de lois. Vous avez le code forestier. Vous avez la loi portant principes fondamentaux relatifs. Vous avez la loi sur la conservation de la nature. Vous avez la loi sur l'environnement.
Mais toutes ces lois. Donc c'est important de vulgariser toutes ces lois. On a vu assez de temps, de Dieu.
Absolument. Oui. On ne peut pas, Marcel, développer l'agriculture sans loi. On ne peut pas gérer avec efficacité les forêts pour nous permettre de lutter contre les changements climatiques sans que les codes forestiers ne soient connus, sans que les codes forestiers.
Tout à fait, c'est bien compris, Saint de Dieu. Alors, répondez rapidement à ces questions des Kapala qui cherchaient également à savoir pourquoi il y a certaines plantes qui supportent la pluie alors que d'autres, ce n'est pas le cas et ça perturbe aussi.
Oui, mais c'est comme nous l'avions dit au début de l'émission. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui n'arrivent plus à supporter ces genres de perturbations. Le maïs, c'est une plante qui est très, très exigeante à ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Donc, dès qu'il y a des perturbations en eau et sur le plan physiologique, la culture de maïs ne peut plus bien fonctionner. Et dans ces conditions, les agriculteurs ne seront plus obligés de continuer avec la culture du maïs qui devient très vulnérable.
Tout à fait.
Les agriculteurs seront obligés d'adopter de nouvelles cultures en remplacement avec ce qu'on appelle la culture du maïs. J'ai parlé par exemple du sorgho et j'ai parlé de la culture du mil qui doivent devenir vraiment des céréales de demain, d'ici qu'on le veuille ou pas, demain à la place du maïs dans les régions où les impacts sur les changements climatiques en termes de précipitations sont importants, nous sommes obligés d'adopter ce genre de culture qui sont également des céréales très très nutritives et on ne peut pas les minimiser peut-être à cause de leur couleur.
Voilà,
c'est le travail qui va être fait.
Donc, on va conclure avec, en lisant rapidement ces réactions sur notre page Facebook de Théos Philos, et qui nous écrit ceci. Personnellement, je trouve que c'est un grand problème qui semble nous interpeller au changement climatique, pourvu que tout soit connu en avance, mais une fois que nous négligeons notre propre engagement faisant face à la question pointe à l'horizon aujourd'hui, nous parvenons pas réellement à auditer de nous-mêmes notre environnement par rapport au passé, sur ce qui se faisait au présent, et nous observons tous la catastrophe sur notre avenir, comme preuve et conséquence dans nos parcelles ici à Kananga, certains champs cultivés non loin de la ville, nous observons la destruction, je dirais méchante, de maïs, surtout par des insectes. Par la simple occasion, il n'y a plus de pluie. Ça, c'est Théophas qui nous écrit depuis Kananga. Et puis, cette question, peut-être vous allez répondre rapidement, d'Isidore qui écrit ceci. Il pleut abondamment, mais pendant la saison sèche d'autres provinces, c'est pas pareil. Pourquoi il y a des provinces où il pleut abondamment alors qu'ailleurs, c'est pas le cas, Jean de Dieu?
Merci, ça c'est une très belle question. Et en fait, avec tout ce qu'il y a comme perturbation climatique, il y a des régions là où les précipitations étaient importantes et là, et finalement, avec les scénarios qui sont en train d'être expérimentés, montrent que ces régions vont connaître de plus en plus de précipitations. Mais les régions dont les précipitations étaient déjà insuffisantes vont souffrir de ce qu'on appelle la sécheresse. C'est ça que veut dire. Donc, ces régions-là vont devenir de plus en plus sèches et les régions qui étaient déjà humides vont devenir de plus en plus humides, mais à condition que l'ensemble de paramètres qui permettent de maintenir cet écosystème soient maintenus. Mais s'il y a des bouleversements de ces paramètres, on va arriver à tout ce que les autres sont en train de déplorer. Alors, pour terminer, Marcel, je souhaite dire, conclure par rapport à tout ceci,
oui.
C'est que si nous voulons que nos agriculteurs s'adaptent aux impacts du changement climatique, si nous voulons que la République démocratique du Congo, en tant qu'État qui a signé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et dernièrement le protocole de Paris, puisse répondre à ses obligations internationales, il y a trois éléments importants à prendre en compte. Le premier élément, c'est l'application des lois. Nous avons la chance d'avoir déjà toutes ces lois. La loi sur l'agriculture, la loi sur la forêt, la loi sur l'environnement, la loi sur la conservation de la nature. Il lui suffit d'un minimum d'efforts au niveau du pouvoir public, au niveau des organisations de la société civile, et surtout vous, la radio, vous avez déjà joué un rôle important, c'est sensibiliser l'ensemble des acteurs, parce que sans application des lois, nous ne deviendrons jamais un État moderne. Deuxième élément, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la loi et les appliquer, mais il faut avoir des outils qui peuvent soutenir cette loi. L'outil le plus important aujourd'hui, qui peut nous permettre de lutter contre le changement climatique, les gens peuvent faire le reboisement, mais la sécurité de ces investissements dépend d'un élément important que nous appelons le plan général d'aménagement du territoire. C'est de bonne utilisation et de l'organisation rationnelle de l'espace que dépend le développement des pays. Troisième élément important, et je dis, et Marcel, règlement, bien sûr, plan d'aménagement, il faut de la volonté politique. Hein. C'est le pouvoir public qui réglemente la vie d'une nation. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique par rapport à ça, et tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, changement climatique, et finalement, les habitants deviendront de plus en plus pauvres et la situation sera chaotique. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, croissance, amélioration des cadres macroéconomiques, ça sera vraiment de la théorie et rien de pratique par rapport à tout cela.
Merci, professeur Jean de Dieu Minungu. Nous rappelons que vous êtes expert en environnement. Avec vous, on a parlé des conséquences des perturbations des saisons sur la production agricole. Merci d'avoir été de notre. On vous retrouve prochainement.
Merci.